Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour, en compagnie aujourd'hui avec moi, Chloé et Julien, bonjour.
Bonjour.
Salut Alexandre.
Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Arnaud Silla, bonjour.
Bonjour.
Et mais avant ça, avant de vous parler du coup de l'association EB et du colloque organisé du 13 au 14, c'est-à-dire demain et après-demain, eh bien nous allons laisser la parole à Julien pour sa chronique du jour.
Eh bien, écoute, merci Alexandre, ça me fait plaisir que tu me laisses la parole comme
c'est
ça.
C'est normal, tu es là.
Franchement, ça me fait chaud au cœur.
Moi, j'aime bien tes chroniques, Julien.
C'est vrai ?
Il n'y a pas de problème. Hein.
Ah, bah, je suis content.
Calmez-vous, vous allez vous pécho après. Par
ah oui,
par
oh l'émission. Ok, donc, on y va direct. Ok, donc du coup, aujourd'hui, dans les coups de cœur de Julien, je vais vous présenter des sports qui sont plutôt méconnus, mais qui sont assez originaux. Donc du coup, pour commencer, je vais vous parler d'un sport qui s'appelle le parkour. Est-ce que dans le studio, vous avez déjà entendu parler de ça ?
Oui,
bien sûr.
Oui.
Celui-là est assez commun, ça va encore. Donc pour le résumer assez rapidement, c'est donc un sport qui met à l'honneur donc, l'art du déplacement. Et c'est donc une discipline sportive acrobatique qui va consister à franchir des obstacles, qu'ils soient urbains ou naturels, avec des mouvements rapides, comme par exemple de la course à pied, des sauts, de l'escalade, des déplacements en équilibre, etc. Et tout ceci sans l'aide de matériel. Donc c'est une discipline qui a vu le jour dans les années 90 dans la banlieue parisienne. C'est longtemps resté méconnu du grand public, mais ça a bénéficié de pas mal d'expositions médiatiques, notamment dans certaines publicités, dans des films, dans les jeux vidéo, même sur les réseaux sociaux. Parce qu'en fait, on a l'intérêt de ce sport, c'est que c'est un sport qui est vraiment impressionnant, donc du coup ça marche beaucoup sur internet, parce que bah, on voit des choses assez impressionnantes. Moi j'ai en tête des images de personnes qui peuvent sauter entre des bâtiments, qui peuvent sauter au-dessus de gouffres assez profonds, ou alors même certains qui peuvent aller escalader des monuments, comme par exemple on a déjà vu à la Tour Eiffel par exemple. Donc c'est un concept qui est arrivé en France dans les années, qui s'est popularisé en tous les cas dans les années 2001, et il a pris vraiment un essor global, donc sur internet comme je viens de vous en parler, plutôt en 2004. Alors il existe de nombreuses compétitions à l'échelle mondiale dans beaucoup de pays. La plus grosse compétition est organisée par Red Bull, qui aime bien organiser ce genre de compétition avec des sports assez extrêmes. Et la dernière a eu lieu justement au début octobre en Italie, dans la ville de Matera. Donc voilà, c'est une discipline qui a quelques compétitions sportives, mais pas tant que ça. C'est surtout l'intérêt de justement ces clips vidéo et puis ce côté impressionnant dans un milieu un petit peu plus urbain. Alors maintenant, je vais vous parler d'un deuxième sport. Alors celui-là, il se rapporte un peu plus à un univers assez fantastique. Est-ce que quand je dis ça, ça vous dit quelque chose ? Un sport assez fantastique, j'ai l'impression que Chloé a compris
si
direct.
Si tu me dis le Quidditch, je te jure, je t'éclate.
C'est vrai ?
Eh ben
on va passer au troisième sport. Non, bah c'est ça, en fait, je voulais parler du Quidditch parce que moi, je trouvais ça marrant. Donc en fait, le Quidditch, qui est donc le fameux jeu d'Harry Potter, existe dans la vraie vie. Ça a été créé en 2005. Et moi je trouvais ça marrant.
Mais qu'est-ce donc ?
Est-ce que tu as vu des vidéos dessus ?
J'ai vu quelques vidéos. Alors j'étais vraiment déçu parce qu'en fait leur balai ne vole pas.
Mais oui.
Ça c'est un problème parce
que ils l'ont quand même. C'est ça que j'ai pas compris dans le principe, c'est d'avoir quand même le balai et du coup ils galèrent comme dans le film. En gros ils sont sur leur balai, ils essayent d'attraper
des
trucs.
Et puis ils courent quoi. Donc du coup c'est vrai que c'est moins pratique pour courir d'avoir un balai entre les jambes qui du coup ça sert à rien.
Ah, c'est ça le sport vraiment.
Ouais.
Ils font un match comme
avec
dans Harry Potter.
Alors en gros, je t'explique, en gros, t'as comme dans le film, t'as deux équipes de 7 joueurs qui vont donc s'opposer sur un terrain ovale de 55 mètres par 33, attention c'est précis. Donc comme dans la série, ils vont avoir trois anneaux qui seront à différentes hauteurs et qui donc servent de but, et donc l'intérêt c'est de, avec les balles, de les jeter dans ces anneaux pour marquer des points. Et évidemment, quelle est la fameuse balle dans Harry Potter, la petite, qui brille ?
Le vif d'or.
Le vif d'or, eh bien... Tiens-toi bien, il y a un mec. Il y a un mec. Non, mais t'es pas prêt. Il y a un mec,
oh, le mec
qui a une petite balle de tennis qui la porte, qui lui a pas de ballon. Et en fait, il joue le vif d'or. Et le but, c'est d'essayer de l'attraper sur le terrain. Alors, ça doit être à mourir de rire.
Vous comprenez pourquoi je trouve ça très drôle et pas vraiment.
Mais mine de rien, je pense que c'est as. Ça doit pas être si facile que ça comme sport. Parce que ça doit être. Faut avoir de l'endurance et tout, tu vois, pour tenir ça. Mmh. Mais c'est vrai que dans l'idée, c'est assez marrant. Donc, du coup, j'ai un petit historique quand même. Ça a été créé en 2005 donc, dans l'université de Middlebury du Vermont aux États-Unis par Xander Menchel. En 2007, le premier match officiel de Quidditch entre Middlebury College et Vassar College est organisé aux États-Unis. Ils ont même une fondation, j'arrête cette voix, c'est chiant, ils ont même une fondation mondiale, qui est maintenant plutôt américaine, qui regroupe quand même 200 établissements américains où ils font des vraies compétitions et tout, ils font vraiment des trucs énervés. Jusqu'à la saison 2013-2014, donc cette fédération organisait des championnats du monde qui se déroulaient donc aux États-Unis et surtout avec des équipes états-uniennes ou canadiennes, mais il y avait aussi certaines équipes, notamment mexicaines, australiennes ou même françaises, parce qu'il s'avère que finalement en France on n'est pas si mauvais dans cette compétition. Je peux vous dire qu'il y a quand même un championnat européen qui existe depuis 2012 et la France est la meilleure équipe de ce championnat entre 6 pays. Avec 3 médailles d'or et 2 médailles d'argent.
Quelle fierté, hein.
Ce qui est quand même pas mal. Donc, et mine de rien, on est bon au Quidditch moldu. C'est un motif de satisfaction, je pense. Je voulais juste dire que... donc sur les... Arrête de rigoler, Chloé, j'en perds mon sérieux, s'il te plaît. Sur les dernières compétitions qui se sont donc tenues en 2018, c'est les États-Unis qui ont gagné. Et cette année, du coup, il y aura les championnats du monde de Quidditch qui vont se dérouler. Et peut-être que la France, on a une chance de décrocher une médaille. Donc moi, j'ai hâte de suivre ça. Peut-être sur Radio Campus. Peut-être que Chloé aura envie de faire une émission finalement. Peut-être qu'il vous fera suivre en direct la finale de ce championnat. En tous les cas, elle a l'air vraiment motivée. Bon, on va changer de sport parce que là, on est en train de perdre Chloé, en fait. C'est vraiment terrible. Donc, le troisième et dernier sport que je voulais vous présenter est lui aussi... Alors, il est un petit peu connu. En fait, c'est un jeu que, je pense, chacun d'entre nous a joué dans la cour de récréation et qui, maintenant, existe à un plus haut niveau. Est-ce que vous avez peut-être une idée d'un jeu qu'on pouvait jouer en primaire ou au collège, dans la cour de récréation?
Ouais.
Vas-y.
Genre la balle aux prisonniers.
Pas la balle aux prisonniers. C'est un truc sans balle, juste entre les gens, et genre tu cours.
Ah ouais, mais je sais plus comment ça s'appelle.
Le touche-touche, là ?
Ouais.
Le chat ?
Le chat. Eh bien écoute, dis-toi que le chat, c'est un vrai sport qui existe. Ça s'appelle le chase tag. Et donc, ce jeu, qui ressemble donc étrangement au chat, mine de rien, est vraiment impressionnant, parce qu'en fait, il se...
Il faut avoir beaucoup de physique, sûrement.
Ouais, de fou, parce qu'en fait, il intéresse énormément les fans de parcours, et les gens très forts en parcours sont souvent très forts dans ce domaine-là, parce que, tout simplement... en fait, tu te retrouves sur un petit terrain avec beaucoup d'obstacles à l'intérieur où tu peux monter, descendre, passer en dessous, etc. C'est vraiment physique. T'as 20 secondes, en fait, c'est un joueur contre un joueur. T'as 20 secondes, soit pour toucher, soit ne pas te faire toucher. Et comme ça, tu cumules des points, etc. dans toute la partie. Et ça se joue en équipe comme ça avec des roulements. Et c'est vraiment impressionnant à voir parce que les mecs vont à une vitesse, ils enchaînent. Ouais. En fait, t'as vraiment plein d'obstacles. Donc du coup, ils passent en dessous, ils passent à droite, à gauche. C'est vraiment impressionnant. Et mine de rien, encore une fois, les Français sont très bons. Je sais pas si vous avez suivi peut-être sur TF1 la série Ninja Warrior qui était diffusée. Eh bien, Ninja Warrior, il y a un des finalistes qui s'appelle Loïc Giorgi, qui lui est donc champion du monde de cette discipline avec d'autres Français, notamment un gars qui s'appelle Charles Poujade, que je suis sur Insta et qui fait pas mal de trucs pareil de parcours et tout ça. Donc, encore une discipline peu connue où les Français sont très bons. Donc voilà, je n'ai pas de conclusion en fait. Donc voilà, je vous ai présenté quelques sports. Si, un truc à rajouter, il existe même sur Tours certaines de ces disciplines que vous pouvez réaliser, notamment le parcours. Il y a pas mal de salles qui existent, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous renseigner pour apprendre les bases et tout ça, parce que c'est une discipline impressionnante, mais qui du coup requiert certaines capacités. Tu peux pas faire ça au hasard, c'est quelque chose, faut vraiment être expérimenté. Donc du coup, vous pouvez vous renseigner si ça vous intéresse, et pareil pour les autres disciplines si vous êtes intéressé. Alors peut-être pas forcément sur Tours, mais si jamais vous voulez faire du Quidditch, renseignez-vous, je pense que vous pouvez trouver des clubs qui vous accueilleront. Il y a même un championnat français, je me suis renseigné là il y a quelques instants, championnat français de Quidditch. Donc voilà, n'hésitez pas à découvrir ces nouveaux sports.
Ils sont habillés comme dans Harry Potter.
Oui. Un peu, ouais, c'est pas complètement, genre c'est pas des vrais déguisements, mais dans le style, ouais, ça ressemble un peu.
C'est rigolo pour tous les fans d'Harry Potter, on pourrait dire.
Ouais,
coup.
De fou. Bah, par contre, si tu t'attends à voir la même scène que dans le film, tu vas être un peu déçu.
Oh, tu m'étonnes.
Je te le dis tout de suite, mais c'est sympa à voir, quoi. Donc voilà. J'ai
très
fini.
Bien. Bien, merci Julia. C'était super.
Petite pause musicale avant de passer au sujet du jour qui sera peut-être plus intéressant. Désolé, mais moi le Quidditch m'a achevé.
N'importe quoi,
c'est pas gentil.
Ah non, le Quidditch m'a achevé, je suis désolée. C'était un bon sujet, mais le Quidditch m'a terminé. Fallait pas. Hein.
Ouais, mais c'est. Et faut le connaître, tu vois. Les...
Ah non, mais tout ce qui était parcours, c'était nickel, hein. Franchement.
Bon, bah, je note.
Oui, Julien.
Super, merci Chloé.
Et du coup, on va écouter Poum, les voiles.
Bien, super, super la musique, hein. Ça s'enjaille. Hein.
On s'ambiance.
On s'ambiance. Eh bien, de retour dans l'émission Sortez, c'était quoi le titre, Chloé?
C'était Poum, les voiles, Poum. Avec le remix de Moi-Je.
Ah oui, Moi-Je.
Exactement.
Le fameux
Moi-Je continue.
Voilà, très bien. Les vrais seront. Non, pardon.
Les vrais sachent.
Bien joué. De retour alors sur le plateau en compagnie de Arnaud Silla, psychologue clinicien et président de l'association EB. Eh bien, première question, Arnaud, je me demandais déjà qu'est-ce que psychologue clinicien ?
Alors, c'est déjà une vaste question en fait.
Oui, ça doit. Ça
psychologue
doit.
Clinicien, en fait, ce qu'on peut retenir, c'est que le psychologue clinicien, c'est quelqu'un qui s'occupe des situations ou des cas particuliers. On est dans l'accueil de situations singulières. Voilà, en fait, les cliniciens sont des personnes qui s'occupent des choses qu'on ne trouve pas ailleurs, au sens chacun une façon d'être qui lui est particulière, singulière, et donc nous on accueille à partir de ça, à partir de ce que la personne manifeste, qui n'est pas forcément écrit dans un manuel ou quelque chose comme ça, et donc ce sont des personnes qui sont habilitées à faire de la psychothérapie, donc accompagner une personne qui a une difficulté, une souffrance à être, ou des questions particulières, qu'on est là pour accompagner avec différents... regard, support et des réflexions théoriques en fonction d'un certain nombre d'orientations. Voilà, le psychologue clinicien, il est dans cette dimension-là, s'intéresse beaucoup à la psychopathologie pour identifier les registres de la souffrance des personnes, ce qu'on appelle la souffrance psychique, et à l'accompagner avec des méthodes, encore une fois, qui dépendent des affinités de chacun et de chacune. Voilà.
Très bien, oui, parce que du coup, ça n'a rien à voir avec le fait de pratiquer dans une clinique ou des choses comme
ça.
Ah,
voilà.
Mais non, parce que, enfin, personnellement, oui, je ne savais pas.
Dans ce qu'on appelle la clinique, c'est vraiment être... littéralement, c'était être au pied du lit du malade, en fait. Mmh. Hein. Le clinicien, okay. C'est celui qui est vraiment au chevet, dans l'origine du terme. Donc, c'est vrai que quelque chose qui disparaît aujourd'hui, on n'entend plus trop ce terme-là. Les mentions dans les universités évoluent et on emploie d'autres termes aujourd'hui et qui renseignent d'une évolution. Les mots et les choses évoluent et souvent D'ailleurs, les changements sémantiques annoncent des changements sociétaux. Quand on fait un peu glisser le terme de clinique, peut-être qu'on met à distance la dimension, encore une fois, très particulière du quotidien aussi, de la personne, de sa situation singulière. Et voilà. C'est ça. Donc le clinicien, c'est celui qui est auprès de la personne. Voilà, moi, je défends cette idée, donc, en lien d'ailleurs avec le colloque de bricolage. Les cliniciens sont aussi des personnes qui accueillent des choses qui n'étaient pas prévues avant. Ils doivent composer avec ce qu'ils ne savent pas. Donc ça, c'est une partie de notre boulot, accueillir l'autre. Voilà. Et chaque personne étant différente, il y a toujours un truc nouveau qui survient. Donc le clinicien, il est là avec cette écoute-là, cette attention particulière, même, je dirais.
Très bien. Et vous recevez du coup des personnes avec des horizons extrêmement différents ?
Oui. Alors je fais beaucoup de choses, mais je suis, pour être court, je suis psychologue dans un centre de consultation. On appelle le centre Orest, donc il y a un lieu qui dépend du centre hospitalier du Chinonais, mais qui est situé sur Tours et qui a une vocation départementale, donc d'accueillir les adolescents à partir de leur 14e année et jusqu'à des temps de passage dans la vie. Voilà, on appelle ça les temps de passage anthropologiques, hein, parce que la fin de l'adolescence, je ne sais pas tout à fait quand ça se termine, c'est pas forcément à 18 ans. Donc on accompagne à partir de ce moment-là dans un lieu qui est dédié à la question de l'adolescence en tant que processus. Donc c'est important d'énoncer qu'on accueille les ados et souvent leur entourage. Les parents, parfois c'est des éducateurs, parfois c'est aussi en lien avec beaucoup avec l'éducation nationale, etc., etc., etc. Donc, c'est dans ce lieu que je sévis avec d'autres sur ces questions-là. Comment on accueille finalement quelqu'un qui est aux prises avec des enjeux du corps qui change, la place dans la société, le regard qu'on a sur soi-même, ses désirs, ses envies, enfin voilà, toutes ces questions qui sont très très complexes à l'adolescence. Et voilà, donc enfin, la clinique est très importante, c'est-à-dire que les ados nous surprennent, voire même produisent de la culture, ils viennent créer des choses, bouleverser. L'adolescence est d'ailleurs à certains égards très politique, hein, dans une forme de velléité, à questionner le monde hérité par les adultes. Donc c'est important qu'on soit attentif à ça. Ça suppose des choses très particulières d'ailleurs en tant que thérapeute, en tant que clinicien, parce qu'on accueille le changement. Donc c'est pas évident. D'où l'intérêt d'ailleurs de s'occuper beaucoup de la culture en général et du processus culturel qui est, selon moi, très comment dire, qui se nourrit vraiment de la question adolescente et de ses questions et de sa capacité à sublimer, on dirait comme ça. Donc moi je travaille dans un service en tant que psychologue avec plusieurs collègues. On appelle ça une équipe pluridisciplinaire constituée d'infirmiers, d'éducateurs, assistants sociaux, pédopsychiatres, d'internes, des secrétaires, et des intervenants qu'on dit extérieurs, c'est-à-dire qui ne sont pas salariés par l'hôpital, mais qui viennent pour faire des ateliers, nous aider sur certains ateliers thérapeutiques, utilisant des objets culturels, ça va de l'écriture, au cinéma, voilà, il y a vraiment plein de choses, étant entendu qu'on considère que la culture est un espace d'accueil aussi, de rencontre, quelque part de soi aussi, et des autres, donc on soutient cette dimension-là dans ce centre-là, avec les ados. Je suis bavard, désolé.
Ah non, très bien, très intéressant. Mais donc du coup, vous pensez, par rapport à ce que vous avez dit un petit peu avant, vous pensez qu'on n'est pas assez à l'écoute de nos adolescents, en quelque sorte ?
Je voudrais pas être jugeant en disant qu'on ne les écoute pas. Je pense que on est dans un monde qui s'accélère, on nous le répète tout le temps. Et notre façon de parler de cette accélération-là, des fois, elle est un peu en panne. C'est un paradoxe, hein. Tout s'accélère, mais on n'a pas toujours les mots pour qualifier ce qui est en train de se passer. Et du coup, les adolescents, ils sont pris dans ce bain sémantique presque de mots, etc. Donc l'idée, c'est pas de dire que les gens font pas bien, s'occupent pas bien. C'est qu'on, bah voilà, c'est notre époque qui est comme ça. Et en tant qu'adulte, on a une responsabilité à accueillir les ados. Mais pas être dupe qu'eux-mêmes viendront questionner. Il n'y aura pas un adulte idéal qui saura tout répondre, saura tout faire. C'est le principe, on est manquant et c'est à ça, quelque part, que les ados s'identifient comment on compose finalement avec notre manque à être, avec nos difficultés, avec nos angoisses, avec l'avenir, etc. Et bien entendu que, on va dire, sans doute que les manifestations liées à ce temps particulier ne sont pas sans rapport avec l'époque et une société donnée. Donc l'idée, c'est d'être attentif aussi à ce qu'on dit et d'interroger presque l'après-coup de ce qu'on dit en tant qu'adulte. On dit un truc, puis après on se dit, ah, tiens, peut-être que voilà, ça évolue. Voilà. Et eux, quelque part, sont dans ce moment où ils sont en train de chercher une formulation pour prendre un ado qui aujourd'hui, si on le recevait, on dirait qu'il est hyperactif ou bipolaire. Je pense à Arthur Rimbaud. Il disait que c'était important de traiter, de trouver le lieu et la formule. C'est l'enjeu de l'adolescence, hein, toujours d'aujourd'hui. C'est quelque chose qu'on doit trouver, se situer quelque part. C'est pas forcément dans une topologie très concrète. Hein, c'est parfois très abstrait. C'est parfois avec d'autres, avec les amis, avec un désir très fort. Ça peut être parfois dans les espaces virtuels, en numérique aussi. Et la formule, c'est pouvoir en dire quelque chose. Donc ça suppose toujours un traitement de ce qu'on appelle, nous les psys, l'après-coup. Alors il y a un philosophe, Jacques Derrida, disait une formule que moi j'aime beaucoup. Il disait, on peut pas faire coïncider le moment de l'expérience avec celui de sa saisie.
Complètement.
Voilà. Donc ça suppose toujours de s'interroger, enfin toujours, de s'interroger dans l'après-coup. Donc moi je suis assez bienveillant avec les adultes, pas complaisant, mais dans le sens où c'est déjà compliqué d'être adulte. Comme disait Brel, je sais pas si on y arrive, hein, la chanson des vieux amants, il disait être vieux sans être adulte. J'aime beaucoup cette idée-là, même si elle est très subversive. Mais d'être attentif au fait que des fois, nous-mêmes, notre propre adolescence, on l'idéalise, elle est un peu romancée, d'aucuns vous disent, mais l'adolescence, c'est formidable, c'est génial, j'ai adoré être ado, hein. Bon, moi j'ai pas aimé, hein. Je veux dire, j'étais boutonneux, j'étais complexé, voilà. Y a plein de choses dans l'adolescence, mais on construit souvent des discours par rapport à ça, donc c'est important que nous, on n'oublie pas finalement notre adolescence, à quelle époque ça coïncidait, mon adolescence, la géopolitique de mon adolescence n'est pas du tout la même que ceux qui sont aujourd'hui adolescents, moi je l'étais dans les années 80, enfin 89, 90, c'était une année très particulière au niveau de la géopolitique européenne et mondiale. Et pour ceux d'aujourd'hui, qu'en est-il ? Voilà. Donc c'est ça. Donc c'est pas non plus facile d'être parent à l'heure actuelle et d'avoir des ados qui, du fait, sans doute, notamment, mais pas que, de l'accélération, ce qu'on va appeler la digitalisation notamment, encore une fois, il y a plein d'autres choses, mais c'est aussi ça qu'on va essayer d'amener dans le cadre de ce colloque-là, sans doute que c'est pas évident d'être aux prises avec quelque chose que, par exemple, Bernard Stiegler qualifie comme une rupture anthropologique, où la génération des plus jeunes, on sait bientôt plus que la génération des plus anciens, et de fait, comment soi-même se qualifier en tant qu'adulte, alors qu'on sent parfois dépassé, et il se trouve que c'est vrai que je vois beaucoup de parents, je reçois beaucoup de parents qui me disent je suis impuissant, je suis dépassé, je sais pas comment faire. Donc c'est à partir de ça qu'on peut travailler avec eux, en étant encore une fois attentif, à accueillir la culture de chacun, les aider à trouver des formulations, mais ne jamais les disqualifier. Donc c'est en ça que je veux pas dire, on n'écoute pas bien nos ados, non, mais c'est un processus, on sera toujours à côté, je veux dire.
Oui. Voilà. Très bien. Alors du coup, l'un des outils auxquels vous avez pensé pour peut-être créer une sorte de médiation entre, enfin pour guérir en quelque sorte un adolescent, mais par rapport à ce qu'il connaît aussi dans sa vie, les jeux vidéo en quelque sorte. Que vous pouvez nous en dire un mot du coup de cette envie, enfin de cette idée qui vous a...
Alors je suis bavard, donc un mot, non je rigole. Adolescence, guérir. Alors, je précise que les mots que j'emploie, c'est vraiment, c'est pas forcément l'adolescence, je parle l'adolescence. Pour moi, c'est un processus. Il y a beaucoup d'auteurs qui disent, fasse attention à ce qu'on utilise comme terme, l'adolescent, qu'est-ce que c'est ? Parfois, c'est une construction. Donc, c'est important d'énoncer, parfois, d'ailleurs, souvent quand on dit un enfant, vous savez, au début, c'est formidable, il est beau, il est belle, etc., etc. Et puis, quand il commence à marcher, qu'il mette les doigts dans les prises, on dit, oh, il y en a marre de dire non, etc. Mais qu'est-ce que ça va être quand il ou elle va être adolescent ou adolescente? Donc, on voit bien qu'il y a une construction aussi sociétale, une représentation de l'adolescent qui vient perturber, troubler, interpeller l'adulte dans ce qu'il est, dans sa subjectivité. Donc, et souvent, on a presque tendance à considérer que l'adolescence, c'est presque effectivement un truc un peu pathologique. Alors que, depuis très très longtemps, beaucoup de gens disent, bah, on en passe par plein de choses dans ce processus-là. On va dire, il y a le processus d'abord pubertaire, du changement corporel, et puis après, il y a l'adolescence qui se poursuit, d'une réflexion sur qui on est, etc., se construire une pensée sur ses pensées, trouver un lien avec autrui, etc., etc. Et donc, il faut être attentif à ne pas pathologiser finalement ce temps d'existence-là, mais être dans l'idée d'accueil de ça. Bien entendu, il y a plein d'auteurs qui réfléchissent aussi à l'histoire de l'adolescence dans les sociétés, et peut-être que dans la civilisation, l'expression de ce moment-là n'a pas été le même il y a 50 ou 100 ans qu'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, pourquoi je fais cette petite bifurcation? C'est pour effectivement parler d'accueil, mais pas forcément de guérison au sens de... Voilà. Par contre, de soins, oui. De prendre soin. Moi j'aime bien ce terme, je vais l'employer, mais d'une attention particulière. Hein, parce que moi, en tant qu'adulte, quand j'accueille l'adolescent, qui quelque part essaie de se différencier en premier lieu de ses parents, mais peut-être aussi du monde des adultes, pour commencer à se subjectiver, il faut aussi que je sois moi accueillant. Mais être accueillant, qu'est-ce que c'est? Être accueillant, c'est être manquant. Si moi je suis un geek, parce qu'en vrai, je suis un geek de la vieille école, et qu'en fait un ado arrive et qu'il voit quelqu'un qui connaît trop de choses, il n'y a pas d'espace pour lui, il n'y a pas d'espace de subjectivation parce que l'adulte il est partout. Et sans doute que l'adolescence c'est ce temps où on a besoin de trouver des espaces où il n'y a pas déjà les parents et sans doute d'autres adultes, voilà, où on peut du coup raconter, traiter sa propre question. Donc c'est important que moi, si je veux accompagner l'autre à avoir une attention particulière, je sois manquant. Mais le manque, c'est pas être comme, être identique, c'est pas, c'est vraiment cette différence hein, qui est importante. Mais la culture peut être un espace intermédiaire. Ça recouvre deux dimensions. Par exemple, un adolescent qui se replie parce qu'il va dans les jeux vidéo, ça peut être temporaire, ça peut être plus compliqué, par exemple. Et s'il va rencontrer quelqu'un qui va lui poser des questions un peu de surface, c'est important qu'on s'y intéresse à la culture. Et puis des fois, on n'est pas dedans, on ne sait pas comment en parler. Mais l'adolescent, il peut aussi avoir une forme de défiance. Mais qu'est-ce qu'il a lui ou qu'est-ce qu'elle a elle à me poser ces questions, il ne connaît rien. D'ailleurs, c'est souvent comme ça que ça commence. Mais de toute façon, vous n'y connaissez rien. Moi, je dis, bah, vas-y, raconte, on verra bien. Et là-dessus, on se rend compte aussi parce qu'il voit, il s'aperçoit que c'est un sujet d'intérêt pour moi. Voilà. Donc, je me suis dit que c'était d'abord aussi une façon d'accueillir l'autre avec... une démarche qu'on va appeler l'identification, alors pour être précis, c'est l'identification secondaire, mais c'est d'aller vers quelque chose pour se séparer en sécurité. Alors parfois c'est le jeu vidéo, parfois c'est le parcours, parfois c'est le parcours dans le jeu vidéo, parfois c'est Harry Potter, mais soit Harry Potter c'est plus jeune, mais on y revient. Mais voilà, donc il y a vraiment cette dimension de comment on peut se rencontrer différemment. Surtout que nous on a un service qui n'est pas un service d'accès direct, pas comme par exemple la maison des ados. Qui est un dispositif qui est vraiment super sur le principe, où ados, parents peuvent venir pour avoir des informations. Nous, il faut être orienté par un tiers, souvent un clinicien, un médecin, un psychologue, infirmier, assistant social, éducateur, qui donne un avis parce que l'ado a une demande, en tout cas un élément de souffrance, et donc on va l'orienter justement pour un soin. Et donc souvent les ados qui arrivent, que je reçoive, c'est pas tout à fait eux qui demandent. Ils sont pas encore vraiment au stade de demander, puis ils sont déjà encore parlés par les adultes. Parfois, ils sont en défiance avec la demande de venir voir un psy. Puis, si on nous dit le psy, la représentation qu'on a dans nos sociétés, bon, on peut avoir celle du psy de Woody Allen, qui a encore un peu de travail. On peut avoir des psys qu'on voit à la télé, les psys qui ont un avis sur tout, etc. Les ados, en général, ils arrivent, ils disent bah « ouais, je suis pas fou, moi ». Donc, si on joue au psy, alors dis-moi comment tu dors, est-ce que tu manges bien, est-ce que tu as des amis, bon, on a des réponses de surface. Donc, alors... D'aucuns travaillent très bien comme ça. C'est pas pour dire que j'ai un avis pour juger mes collègues qui travaillent différemment. Je dis juste que certains ados que je rencontre qui sont très repliés, il me semble que c'est opérant de les rencontrer à partir de ce qu'ils trouvent, eux, pour se subjectiver, pour s'occuper un petit peu l'esprit, ou pour parfois éviter de penser. Donc, je rencontre les ados dans un cadre avec la culture. Alors, la culture, c'est très large, en fait. Hein. Parfois, j'y connais rien. Parfois, j'ai une petite idée. Mais d'abord, on va aller là-dessus. D'abord, on va se rencontrer là-dedans, dans cet espace intermédiaire, à pas rentrer trop dans... finalement le fonctionnement de l'ado, au sens psychique, faire intrusion, mais plutôt d'abord voir comment on peut rentrer en lien, en sécurité. D'aucuns appelleraient ça une fonction dite fatigue, ce qui nous permet une mise en lien avec autrui. Et donc c'est ça que j'essaie de travailler, notamment avec le jeu vidéo. Donc ça c'est un premier temps de rencontre. Puis après il y a le temps, quand des fois on n'arrive pas à raconter ou se raconter, se mettre en récit, parler de ce qui fait souffrir, bah, on va essayer de trouver à mettre du jeu dans l'impasse. Voilà. Et on peut jouer avec un jeu vidéo qui permet une mise en récit. Mais paradoxalement, et là où je vais être un petit peu subversif, même dans des jeux comme Fortnite, dans Call of Duty ou dans GTA, il peut y avoir une façon de raconter quelque chose et de le mettre en récit. Soyons attentifs, et comme dirait un philosophe dans Le Seigneur des Anneaux, ne soyons pas trop prompts à dispenser morale et jugement. C'est Gandalf qui disait ça, enfin bref. Mais c'est pour dire que c'est important d'accueillir l'autre d'abord avec sa culture, d'être attentif à ça. Ça, c'est le travail d'un clinicien. Écouter, identifier un certain nombre de registres pour voir où en est l'autre dans sa représentation de lui ou d'elle-même, et de ne pas fixer les choses à un moment où tout change régulièrement. Voilà. Donc mon travail est là, à l'accueil de l'autre avec sa culture, pas forcément rentrer dedans, mais être en interaction, se différencier, à certains égards, je dirais même être suffisamment ringard parfois, pour que ça laisse une place pour l'adolescent, et parfois aussi c'est médiatiser les choses, d'une part avec les parents ou les tiers, parfois qui sont éducateurs, qui ne connaissent pas trop, ils sont là, mais est-ce que c'est pas compliqué? Il y a des discours qui sont produits, est-ce que ça rend violent? Est-ce qu'il y a de l'addiction, etc., etc. Est-ce que ça ne va pas l'entretenir? Est-ce que si vous jouez avec, vous n'allez pas justement le rendre addict, etc. Donc il faut discuter de ça, faire parler tout ça pour écouter d'ailleurs les inquiétudes qui sont en arrière-plan. Et bien entendu aussi avec les parents, leur expliquer toujours ce qu'on fait, pourquoi, quelle en est la limite, et leur dire que s'ils ne sont pas d'accord, ben on ne le fait pas, on fait autrement. On peut toujours trouver des alternatives, mais faire parler tout ça, ça offre aux ados la possibilité de se subjectiver. Voilà.
Très bien. Merci Arnaud. On va faire une pause musicale et puis on reviendra en parlant de l'association aussi.
Et on va écouter du coup, hop, yes. J'appuie n'importe où, c'est bien. Donc, Pascal Le Toublon avec Friendships. Thank you.
de retour dans votre émission Sortez sur Radio Campus, toujours en compagnie d'Arnaud Silla. Arnaud, vous êtes président de l'association EB. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Pourquoi l'association fut créée? Quel est son rôle?
Alors l'association EB, c'est du nom de la jeunesse de la vitalité, la déesse de la jeunesse et de la vitalité chez les Grecs, c'est Juventas chez les Romains. Donc ça nous semblait important de soutenir une capacité dans notre service à l'époque, hein, de penser, de bricoler des choses, et puis d'organiser aussi des espaces de formation en fonction de ce que nous on vivait dans notre pratique quotidienne. Donc on s'est dit comment on peut soutenir nos réflexions, comment on peut trouver de nouvelles modalités d'intervention. Et donc on a commencé à faire des espèces de mini-causeries, quoi. On discutait entre nous, on invitait des collègues qui développaient nos réflexions, qu'on se posait des questions. Puis à un moment donné, on s'est dit bah, pourquoi on n'ouvrirait pas ça un peu plus? C'est-à-dire, il y a plein de collègues dans le coin qui se posent des questions, il y a eu pas mal d'associations qui existaient puis qui ont eu du mal à perdurer. Donc en fait on a créé cette association, on a été à l'origine soutenu par des grands des gens qui développaient des choses très importantes. Je pense au Collège International de l'Adolescence avec Annie Biraud, avec Philippe Guton et la revue Adolescence, avec Olivier Deville et la revue Psychologie Clinique, qui sont grosso modo on va dire nos trois parrains, et qui sont venus ouvrir notre premier colloque sur la question justement du politique à l'adolescence. Donc l'association, elle a pour vocation de faire à la fois du lien social, c'est-à-dire traiter de la question de l'adolescence, ça ne peut pas se faire sans la question du lien social. Donc comment on peut le penser, le théoriser, mais aussi en parler auprès d'un certain nombre de collègues autour de nous, éducateurs, infirmiers, psy, enfin tous ceux qui sont de près ou de loin intéressés par la dynamique adolescente, et soutenir une réflexion sur ce temps singulier à partir d'une éthique, qui est celle proposée notamment par la psychanalyse, l'éthique de ce qu'on appelle du sujet, du cas singulier, particulier, et aussi une ouverture à ce qu'on appelle les sciences affines à la psychanalyse, que sont la philosophie, la sociologie, l'anthropologie, la littérature, etc., 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 et nécessairement avec l'idée de la culture comme objet de soin. On est dans ce rapport-là. L'association maintenant organise donc des colloques régulièrement, intervient auprès de plein de gens qui nous sollicitent. Alors on n'est pas une industrie de l'intervention ou de la formation, mais on nous demande de venir dans des collèges pour discuter avec des jeunes, avec des parents, des enseignants. Et de fait, on a développé à partir de cette éthique une réflexion sur le lien social en général. Donc on intervient notamment dans des associations, beaucoup, pour ne pas la citer, l'association Courteline, où on fait des permanences hebdomadaires pour accueillir des gens. On y est une fois par mois, le jeudi après-midi, avec ma collègue Alice Schoenbach. Et donc, on accueille des gens pour discuter, prendre un café, parfois orienter si besoin, mais déjà avoir encore une fois cette idée d'attention particulière. EB contribue aussi activement à développer des réflexions sur l'accueil des problématiques contemporaines, avec bien sûr là un ouvrage qu'on a écrit il y a pile poil un an sur le numérique et les médiations numériques, et puis d'autres interventions un peu partout, dans des conférences et colloques, à soutenir vraiment cette éthique-là, en étant ouvert, attentif au discours de notre époque et parfois aussi aux critiques adressées au courant de la psychanalyse. Nous ne sommes pas des gens qui sommes une association psychanalytique, mais nous interrogeons à partir de cette éthique-là.
Vous avez parlé d'un ouvrage que vous avez co-réalisé avec Marion Haza. C'est bien ça. Est-ce que vous voulez nous en parler un petit peu?
Alors, Marion Haza, c'est une collègue, une amie avec qui nous travaillons beaucoup sur les questions du numérique, qui on a intervenu, j'ai fait intervenir il y a 5 ans sur un colloque qui était justement sur le lien social. Et après je l'ai fait intervenir parce que du coup on avait beaucoup de points communs, de centres d'intérêt, de réflexion à partir de la culture, et on partage la même culture de jeux vidéo, de manga, etc. Donc on a eu l'occasion de se croiser à la fois dans un cadre, je dirais, scientifique, colloque, et puis vraiment en périphérie, de discuter régulièrement de nos pratiques, de nos réflexions sur l'actualité de nos pratiques, comment c'était pensé à l'heure actuelle. Et donc un jour, elle m'a demandé, elle m'a dit, mais voilà, je vais diriger un ouvrage, est-ce que ça t'intéresserait d'écrire quelque chose, sachant que j'ai la chance d'avoir une pratique très éclectique. Une attention qui va du cas particulier, l'accueil de l'ado en tant que tel, mais aussi dans un cadre groupal, et, pour ce qui me concerne, une forte sensibilité à ce qu'on appelle l'institutionnel, c'est-à-dire dans quel monde on évolue pour travailler, et nos collègues à côté, etc. Qu'est-ce que ça génère comme potentialité, parfois comme difficulté, comment on traverse ça et de quoi ça parle. Et donc, d'amener traverser ces trois dimensions-là, le singulier, le collectif et puis l'institutionnel, me semblait important. Et donc, elle m'a dit, est-ce que tu veux bien écrire quelque chose là-dessus ? Donc, moi, j'ai commis deux chapitres là-dedans, et dans le cadre de l'association EB aussi, mon compère et ami Simon Galopin, qui lui travaille beaucoup sur les mêmes sujets, mais en particulier sur le manga. Donc il a travaillé, il a évoqué la question de la culture en particulier, mais aussi de l'intérêt par le manga, l'autre langue, et ce que propose aussi le storytelling dans les mangas, qui est un support aujourd'hui d'attraction très très fort pour les ados en général, et en particulier en France. Donc on a écrit trois chapitres de l'ouvrage, où on explique comment on voit les choses, comment on travaille. Donc c'est très clinique, c'est-à-dire qu'on raconte aussi comment on a été en difficulté dans l'accueil, comment on a pu s'autoriser à introduire du numérique dans une époque où c'était pas si évident que ça, et puis aussi parfois nos erreurs, nos errements, nos doutes qui traduisent ce cheminement-là. Et donc l'ouvrage, c'est un ouvrage collectif qui rassemble des universitaires, des cliniciens, moi je ne suis pas universitaire, et donc qui théorisent leurs pratiques, qui témoignent de ce cheminement qui est leur avec un certain recul. On est peut-être la deuxième, troisième génération qui maintenant introduisons ce type de matière-là dans la médiation thérapeutique. Il est très engagé, encore une fois, du côté de la psychanalyse, c'est-à-dire s'interroger sur, pour dire de manière triviale, sur ce qu'on fout là, et les limites que ça comporte, mais aussi les potentialités dans l'accueil de l'autre, en tant qu'une personne singulière, voilà, qui ne ressemble pas à quelqu'un qui est à côté, et qui vient avec une demande qui est parfois difficilement élaborée, et qui a besoin de quelque chose pour se formuler, et voilà, alors ça rentre pas dans les cases. Donc ce bouquin, il parle de ça aussi. Et il parle de ça en introduisant de manière très très optimiste par Florian Houssier, Xanthi Blachopoulou, et il est conclu aussi par Marion Haza sur l'intérêt de la culture. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui développent des recherches qui sont passionnantes. Enfin, moi, je trouve ça intéressant ce qu'on fait sur, par exemple, le jeu vidéo pour rééduquer, le jeu vidéo pour aider des personnes qui ont des troubles, des angoisses, des phobies, etc. Nous, on n'est pas du tout là-dedans. On est dans une approche qui considère d'abord la culture, qui n'est pas utilitariste. Donc on rencontre encore une fois l'autre avec sa culture, puis on voit ce qui se trame dedans, comment on peut l'accompagner dans ce cheminement-là. Donc on n'a pas une idée préconçue de où on va emmener la personne quand on l'accueille avec l'idée de la culture et notamment ses objets, comme par exemple des jeux vidéo ou des mangas. On n'a pas développé, on n'a pas vocation à faire un jeu qui soignerait la dépression, la phobie et autres, mais plutôt comment on accueille l'autre dans son processus de subjectivation, c'est-à-dire vraiment de se singulariser à partir de cet objet-là qui peut être lâché à un moment donné ou maintenu parce que ça a des propriétés particulières. Donc c'est ce qu'on raconte.
Ok. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de l'association Caméléon, car elle est partenaire de l'événement?
Bah alors en fait l'association Caméléon c'est une association un petit peu c'est la famille, c'est comme EB mais du côté de Bordeaux avec un collectif, ouais voilà c'est ça, qui s'interroge pareil sur les questions de l'adolescence, la clinique et la modernité, qui rassemble aussi un collectif beaucoup plus large que nous on est très très peu à EB en fait, on est très peu, on bricole hein, vraiment. Caméléon, il y a une vocation je pense beaucoup plus universitaire aussi de proposer des formations, et ça je trouve ça vraiment très 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 bien d'intervenir sur des techniques par exemple qu'on connaît bien aujourd'hui qui sont par exemple ce qu'on appelle les techniques projectives avec les textes Rorschach, donc qui proposent des formations pour des professionnels, voilà, des interventions sur les problématiques du contemporain et un lieu de réflexion et de soutien de la réflexion autour de la clinique et de l'adolescence, qui organise aussi des colloques, donc le prochain sera au mois de juin, le 6 juin 2020 justement sur le double, parce que c'est une date qui fait double, 6 juin 2020, voilà. Et donc, voilà. Et où EB interviendra pour parler justement de la médiation et de la rencontre du féminin à l'adolescence. Voilà, donc en fait, c'est grosso modo la même éthique, le même état d'esprit. Une association qui est très ancrée dans la réflexion et la défense de cette éthique-là à l'échelle universitaire, puisqu'elle regroupe beaucoup de gens qui sont eux-mêmes en tant que maîtres de conférences ou doctorants ou psychanalystes. Voilà.
Très bien. Pour finir un peu sur la présentation de tout ça, pardon, les Human Tech Days, qu'est-ce donc ?
Alors les Human Tech Days, c'est ça vient en fait de notre région qui souhaite valoriser et créer une synergie autour de tous les acteurs qui travaillent sur le numérique. Donc ils ont créé, c'est la deuxième année si je ne me trompe pas, une sorte de labellisation qui permet de valoriser vraiment notre région, la faire aussi rayonner dans ses potentialités d'innovation, de créativité. Nous, on n'avait pas forcément vocation à être dans ce contexte-là. C'est un peu un concours de circonstances où de plus en plus des gens s'intéressent à ce qu'on bricole. Donc, on nous a demandé d'assister à des groupes de réflexion qui rassemblaient des entreprises, des startups, des universitaires, des gens de la Cité MAM, des gens du Fun Lab, etc. Et puis, nous, on était là au titre à la fois de la santé, mais aussi de la question de médiation avec le jeu vidéo. Moi, j'étais assez identifié dans ce collectif-là. Et j'ai pu faire une présentation de mon travail, dans quelle mesure il résonnait à la fois dans beaucoup sur notre territoire ici, mais aussi à l'échelle nationale. Et du coup, la région m'a dit, mais il faut absolument qu'on parle de ce que vous faites. Donc, ils nous ont dit, envoyez-nous un dossier sur votre projet et on va le valoriser. Donc, du coup, il y a toute une fenêtre qui est, il y a plusieurs jours qui sont organisés et répartis dans le mois, qui s'appelle Human Tech Days, qui valorise des choses très, très, très éparses. Et nous, finalement, on vient parler à la fois de la culture et du soin. C'était un secteur qui n'était pas tout à fait identifié ou reconnu en tant que tel par la région, sachant qu'il y a d'autres choses, d'autres intervenants qui font des choses très bien avec le jeu vidéo, mais dans une autre perspective que celle qui est de défendre la culture. Ils le font dans l'idée d'accompagner, de rééduquer, ce qui est un choix, mais ce n'est pas forcément notre démarche. Et donc la région a souhaité soutenir ça. En fait.
Ok. Je rappelle pour les gens qui ne le savent pas encore parce qu'ils viennent de nous rejoindre que du coup c'est un colloque médiation numérique en psychothérapie, qui se tiendra du coup demain et après-demain, où d'ailleurs ?
Eh bien, ça sera au HQ, c'est impasse rue du Palais, c'est dans les anciens locaux de la Poste qui ont été réaménagés et qui est un lieu, un espace de coworking, donc c'est vraiment dédié, okay. En l'occurrence, aux gens qui partagent cette culture-là.
Très bien. On fait une pause musicale et on revient un petit peu du coup sur la programmation, quel mot, sur le programme en tout cas du colloque.
Et puis on va. Oui, c'est bon. J'ai cru qu'on ne m'entendait pas, je ne m'entendais plus, j'étais perdue. On va partir sur une petite musique justement de jeu vidéo que moi j'aime bien, parce que cette musique, je l'aime bien, j'aime bien le jeu vidéo. Et on va partir sur Megalovania du jeu vidéo Undertale.
Et de retour dans votre émission Sortez. Eh bien, pour clôturer cette émission, on s'est dit qu'on pouvait un petit peu vous proposer le programme de ce colloque, médiation numérique en psychothérapie. Voilà. Si vous pouvez un petit peu dépeindre.
Alors, ce que je peux raconter, c'est, je vais faire du teasing, c'est que, comment dire, moi je suis super content de faire un colloque là-dessus, parce que d'une part je suis un fan de jeux vidéo, qu'il y a plein de gens qui vont venir, c'est génial, qui sont de près ou de loin concernés par le soin, mais qui se retrouvent autour d'une culture, donc on fait un colloque qui va essayer, autant que faire se peut, d'accueillir. Et accueillir, ça veut dire quoi? Ça veut dire faire un peu de transversalité. Un colloque, on imagine toujours ça, dans un rapport un peu descendant, vous avez quelqu'un, alors c'est souvent d'ailleurs un homme, je suis pas sympa, mais c'est pour histoire de questionner ça, qui dit quelque chose et puis tout le monde écoute. Donc nous, on s'est dit, il faut qu'on réfléchisse, parce que nos colloques, c'est souvent l'occasion que plein de gens du monde de la culture, parce qu'on fait toujours intervenir des gens de la culture, des soignants, des éducateurs et autres, puissent se retrouver aussi entre eux et faire du lien entre eux, causer un peu, c'est l'occasion d'un peu de convivialité. Et comme je suis un geek et que j'ai pas froid aux yeux, en fait, je ramène absolument tout le matériel que j'utilise en médiation. Donc, en fait, il y aura 4 ou 5 ordinateurs, il y aura plein de consoles, il y aura plein d'espaces pour geeker, histoire de montrer aux gens aussi ce qu'on utilise et quel est notre dispositif. Non pas qu'il soit pour dire aux gens ce qu'ils doivent faire, mais regardez comment on a bricolé et raconter des histoires. Parce que le matériel qu'on va montrer, c'est du matériel qu'on... parfois, qui a été monté avec des adolescents. J'ai même, en l'occurrence, une console que je vais amener, qui est une console qui est, voilà, je pense à quelqu'un en particulier, qui m'a initié à certains jeux avec cette console-là, qui va être présentée. Voilà, bon, bref, je fais court là-dessus. Donc, le colloque, c'est l'occasion pour nous de présenter ça. C'est pas juste un teasing avec des universitaires qui vont parler et qu'on va écouter, c'est un moment où on va se croiser. Il y aura même des jeunes de l'IME des Douai qui nous ont préparé en fait une sorte de mini petit-déj, café croissant qui prépare la veille et puis ils nous les servent à ce moment-là. Et nous, l'association, on finance après des projets pour eux dans l'après-coup. Donc ça permet de faire un peu de transversalité là-dedans. Et ça, c'est vraiment très important. Hein. Ces colloques sont identifiés aussi pour ça. Et on s'était dit, puisque nous avons la main pour organiser quelque chose, mais qui on aimerait inviter? Et donc on s'est dit, il faut qu'on fasse des choses qui soient importantes, on pourra pas tout dire lors d'un colloque. Donc on s'est dit, on va inviter des gens qui sont dans la culture numérique, dans la réflexion critique, et on a contacté une association qui s'appelle Women in Game, qui interroge justement la place des femmes, ou la question du féminin, dans les espaces numériques. Et donc on a Gwendoline Garand qui viendra parler de cette question-là, qui viendra analyser aussi les enjeux derrière du numérique et de la question de la place des femmes. Ça, c'est important. C'est pas pour rien que notre association s'appelle EB, c'est la déesse au féminin. Avec nous, c'est une question qui est très importante pour nous de réfléchir à cette époque, à tout ça, et d'être ouvert dans cette réflexion et de le dire d'emblée. Ça, c'est pour l'ouverture de la soirée avec Marion Hazard et moi-même qui discuterons de la question du soin et du numérique. Le lendemain, on va essayer de problématiser. Donc la journée va se découper en deux temps. Un premier temps de réflexion globale sur les enjeux du numérique à l'heure actuelle avec Xanti Lachopoulou, qui vient de l'Institut du Virtuel, qui est maître de conférence en psychopatho, membre du Collège international de l'adolescence. Et ensuite, on a une association qui s'appelle Silver Geek, qui sera d'ailleurs à la DreamHack prochainement, qui viendra parler des liens intergénérationnels qu'ils font avec le jeu vidéo. Ils organisent des compètes et des trucs qui sont hyper dynamiques et très sympas. Et donc, en fait, ils vont nous faire une démo. On va faire jouer les gens en live dans la salle. Et après, on a ce qu'on appelle une table ronde. Donc, c'est trois personnes qui vont discuter à partir de points de vue différents. Un psy, un pédopsy, un artiste qui vont venir parler de leur rapport à la culture, mais geek en particulier. Donc, Simon Galopin qui va introduire cette question de la culture. Qu'est-ce que la culture, mais aussi la problématiser. Qu'est-ce que ça veut dire? De quoi on ne parle pas quand on parle de culture aussi? On aura donc Xavier Angibault, qui est pédopsychiatre, qui viendra parler du groupe que nous co-animons tous les deux, qu'on appelle Culture Geek, qui est un espace génial d'accueil, complètement bricolé, et qui permet vraiment de faire du lien avec les ados et la culture. Et puis on est hyper content d'accueillir Florent Maudou, qui est donc un dessinateur du label Ankama, entre autres, et qui a fait Freak Squeal, qui viendra discuter de sa place en tant que en tant que dessinateur et créateur, artiste, etc. Et qui est génial, et on est vraiment content qu'il soit là. Donc on a vraiment trois rapports. Le psy au sens de la thérapie, la psychanalyse, on a un pédopsy qui viendra interrogera le rapport aussi du médecin, et qui est dans cet espace d'animation thérapeutique en groupe, et l'artiste qui est un peu à côté et qui viendra parler de lui, son propre processus. Ensuite, l'après-midi, Il y aura une ouverture avec, on est super content, avec Mehdi Debabi Zourgani, qui est un peu notre expert en fait de la journée sur le numérique, qui viendra parler de tout ce qui est aussi le jeu vidéo en général, en particulier pour le soin, et puis l'univers indé. La culture aussi, c'est ça. C'est pas que du mainstream. On avait la musique de Undertale. Bon, on viendra parler des créations qui vont aussi de ce côté-là. Et donc lui viendra nous faire une petite démo là-dessus. Donc on dit aux gens, amenez vos clés USB, il y aura peut-être de quoi repartir avec quelques jeux sympas. Ensuite, on a la chance d'avoir Bernard Chouvier, qui est donc un professeur de psychopatho et psychologie clinique, qui viendra nous raconter l'histoire aussi des médiations et les concepts de base de la médiation thérapeutique. Et après, on a une table ronde avec trois auteurs, co-auteurs du bouquin, qui parleront peut-être des limites liées aux jeux vidéo, en tout cas les contingences qui sont liées aux jeux vidéo. C'est-à-dire qu'il peut y avoir un côté un peu séduisant à vous dire on fait des jeux vidéo, c'est génial. Alors, d'aucuns vont vous dire c'est pas sérieux. Peut-être qu'ils ont raison. Peut-être qu'il faut qu'on se pose la question de ce qu'on fait. Donc c'est l'objet de cette table ronde-là. Les contingences liées à l'utilisation du jeu vidéo. Ensuite, dans quelle mesure un thérapeute a pu l'utiliser à un moment donné et puis l'abandonner après, et va réfléchir sur qu'est-ce que c'est que la médiation pour lui, mais qu'est-ce que c'est en particulier, quand on a pris du recul, qu'est-ce que c'est en particulier que cette médiation avec un jeu vidéo. Et puis moi j'aborderai quelque chose de plus, ce qu'on appelle didactique, vraiment c'est un cheminement personnel sur la place du jeu vidéo pour moi en tant que personne, pour les ados que j'ai pu rencontrer, comment j'ai pu m'autoriser à l'utiliser auprès de mes collègues et le légitimer à tel point qu'aujourd'hui bah on fait des colloques autour de ça. Voilà. Et enfin, une conclusion avec Bruno Berthier et Marion Hazard avec ce qu'on appelle des cas cliniques. Donc je n'ai pas nommé à ma table ronde Florent Faugère et Vincent Lecor, qui sont mes compères co-auteurs du bouquin pour parler de l'utilisation contingente du jeu vidéo. Et ça sera déjà pas mal en fait. Et bien entendu, il y aura donc outre les stands, il y aura des libraires, donc de la revue Adolescence, et la boîte à livres qui est un partenaire historique qui est toujours là, avec plein de bouquins scientifique, mais aussi la culture. Il y aura des mangas, il y aura plein de choses. Et il faut que les soignants découvrent ça, donc c'est pour ça qu'on va montrer tout ça.
Merci beaucoup Arnaud Silla d'avoir participé à l'émission. Merci. C'était un plaisir.
Peut-être rappeler c'est quand ?
C'est quand ? Ouais, bah voilà quand. C'est le 13 et 14, donc demain et après-demain, jeudi, vendredi, si je ne m'abuse.
Et où ? Vas-y, on va voir si tu suis ton émission.
Le HQ.
Wow,
mais c'est, vous pouvez peut-être faire un mot dessus.
Le HQ, impasse rue du Palais, donc voilà, à partir de 18h, 18h30 demain.
Voilà, très bien.
Et bah parfait. Et bah il va nous rester à nous à vous souhaiter une bonne soirée, de bien vous amuser, de rappeler que cette émission sera en rediffusion demain matin de 6h à 7h, que le podcast sera disponible ce soir sur toutes les plateformes de la radio, donc le Facebook et le site www.radiocampustour.com. Que dans quelques minutes, dans 3 minutes exactement, on va se laisser parce qu'il y aura le flash RFI, et qu'après 18h15, comme à l'habitude, le Ghetto Blaster. Et puis maintenant, on va peut-être tous dire au revoir et à demain, enfin surtout nous, à demain, et puis vous, merci à vous deux, du coup, parce que Julien est encore là. Bonjour Julien.
Oui, j'étais encore là.
En scred. Et bah, au revoir, bonne soirée.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Radio Campus Tour 99.5
et sur internet radiocampustour.com.